Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'univers 99.9. Pour cette édition, nous retrouvons la seconde partie de l'entretien avec Gilles Amalvi, qui est écrivain, créateur sonore et critique de danse, et qui va nous parler justement de sa manière d'envisager son travail d'écriture et de création sonore. C'est tout de suite dans Logosphère sur les ondes d'univers 99.9. Alors, vous parlez justement dans cette... on va dire fonction documentaire ou qui pourrait s'en rapprocher du moins. Et vous parlez notamment du fait que vous asséchez cette dimension de la poésie lyrique. Poésie lyrique, c'est un peu justement l'image qu'on se fait de la poésie en général. L'idée commune, à savoir l'expression du sentiment, de la passion, l'expression de la subjectivité. Qui a été la poésie lyrique, qui a jalonné toute l'histoire de la poésie. Pourquoi, tout simplement, chercher à assécher l'expression des émotions et du moi aussi, pour le coup. Voilà.
Ben, je suis évidemment, je vais pas faire une rétrospective de toute l'histoire de la poésie au XXe siècle, mais on va dire que dans l'histoire de la poésie du XXe siècle, notamment d'ailleurs par le biais de la question du son et de la lecture, moi j'ai beaucoup fait de recherches, et j'ai eu l'occasion aussi d'écrire sur cette question, plutôt d'un point de vue théorique, sur comment est-ce que le fait de... Tout simplement, là, je suis en train de parler devant cet objet merveilleux qu'est l'enregistreur. Voilà. En fait, il y a l'apparition du phonographe. Et tout d'un coup, pour la première fois dans l'histoire, la voix, la voix humaine, qui était un phénomène totalement transitoire, est inscrite, quelque part. Mmh. Il y a un enregistrement que j'aime beaucoup et que j'utilise souvent quand je fais des cours sur cette question, qui est un enregistrement d'un poète anglais. Ça y est, du coup, son nom m'échappe, évidemment. En fait, Thomas Edison, qui est l'inventeur du phonographe, comme c'était un très très bon commerçant, Edison, au contraire de la plupart des autres inventeurs du 19e, lui, il avait une fibre commerciale extrêmement forte. Il avait, pour diffuser son invention, organiser des événements où il invitait des sommités du monde scientifique, politique, à venir faire des conférences, et il les enregistrait, et c'était un moyen de faire connaître son invention, le phonographe. Et il y a donc un exemple qui date de 1889, où il invite un poète, son nom va peut-être me revenir en cours de route, et le poète commence à faire sa lecture, il fait une lecture de poésie, d'un de ses poèmes. Et tout d'un coup, gros blanc, trou de mémoire. Mmh. Donc il essaye de recommencer, retrou de mémoire. Et là, il s'arrête. Il est donc sans doute devant cette espèce d'énorme cône des premiers phonographes. Et il dit « Je suis absolument désolé, mais j'ai complètement oublié mes propres vers. Mais quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie et que je n'oublierai jamais, c'est le jour où j'ai découvert cette invention extraordinaire. » Et là, il dit son nom. Et ensuite, il se met à crier. Il fait « hip, 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 hourra ! Hip, 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 hourra !» Et pour moi, il y a quelque chose à ce moment-là qui est, pour moi, le début de la poésie sonore. C'est le moment, en fait, où la voix devient un phénomène à part entière, séparé, en quelque sorte, du corps et du sujet, et qu'on peut traiter en tant que tel. On peut en faire une matière. Il y a beaucoup de poètes sonores, Bernard Heitzig, Isidore Isou, enfin, il y en a beaucoup, qui ont travaillé sur cette... soit en utilisant la superposition, soit en utilisant presque une forme de matérialité musicale de la voix, qui ont transformé la poésie. Et il y a vraiment un courant, tout au long du XXe siècle, comme ça, de désubjectivation par le biais de la voix, où la voix devient une sorte de matière qui n'appartient plus au jeu du poète, mais qui presque a gagné une forme d'autonomie, pardon. Donc voilà, moi je ne fais que me placer dans cette histoire, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que je commence à écrire comme poète lyrique, jeune adolescent qui exprime ses sentiments en reprenant le cadre des poètes qui peuvent être marquants pour un jeune adolescent, comme Baudelaire, comme Rimbaud, comme Verlaine, comme Apollinaire. Et il y a un moment, en fait, où je découvre plutôt la poésie contemporaine, comme je l'ai dit, Olivier Cadiot, mais aussi Bernard Heitzig, qui est un poète très important pour moi. Et puis je découvre, en fait, à la même période, de par mes études, je fais ce qu'on appelait à l'époque un DESS, un Master 2, avec la philosophe Catherine Perret, qui était centrée sur l'art contemporain. Et donc je découvre tout un tas de formes aussi dans l'art contemporain, cette question de comment est-ce que l'art peut être autre chose que l'expression d'une subjectivité. Et évidemment, que ce soit le ready-made de Duchamp ou plus tard les mouvements Dada et Fluxus, moi qui m'ont beaucoup marqué à cette époque-là. Il y a quelque chose qui se produit dans ma poésie qui n'est pas encore véritablement une sorte de j'arrache pas la page de la poésie lyrique, mais j'essaie de mixer ce que je suis en train de découvrir du côté de la poésie contemporaine et de l'art contemporain avec les résidus ou les restes de mon propre logiciel lyrique, en quelque sorte. Mmh. Et d'ailleurs, bon, c'est pas complètement un hasard, mais Olivier Cadiot et Pierre Alfieri, dans les années 90, je crois, on fait paraître une énorme revue qui reste un moment très important de la poésie contemporaine française, qui s'appelle la Revue de littérature générale, et dont le sous-titre est « La mécanique lyrique ». Donc il y a vraiment cette question de comment est-ce que le lyrisme vient se greffer sur des nouvelles pratiques comme le sampling. Il y a dans la Revue de littérature générale, il y a un texte du guitariste avec lequel Cadiot a Burger écrit sur la question du sampling. Il y a plein d'interrogations sur cette question de comment est-ce qu'on on reload, comment est-ce qu'on réactive le lyrisme dans un monde qui est celui des machines, qui est celui du sampling, qui est celui des ordinateurs, qui est celui du numérique. Il ne peut y avoir qu'une autre forme de subjectivité. Et donc, ma question, principalement, elle n'est pas tant d'en finir avec le lyrisme ou avec ce jeu qui continue à hanter la poésie, mais à la fois de le débrancher, on va dire, de la page, du livre et du sujet en tant que sujet romantique pour aller le rebrancher sur le sujet contemporain, qui est lui-même un sujet éparpillé, en fait. Dans mon premier livre, Une fable humaine, je parle, il y a Prométhée et Épiméthée, qui est littéralement une sorte de sujet complètement en morceaux, en lambeaux, qui est éparpillé à la fois par toutes les mots d'ordre, les slogans, enfin tout l'univers du langage qui nous envahit au quotidien. Et donc c'est véritablement une subjectivité en lambeaux. J'essaie en quelque sorte, moi en tout cas, de m'interroger sur qu'est-ce que serait le lyrisme d'une subjectivité en lambeaux, d'un jeu en petits morceaux, d'un jeu écrabouillé par tout un tas de contraintes d'aliénation diverses et variées.
Mais par ailleurs, il y a aussi une figure très importante de l'art lyrique qui est Orphée. Orphée, qui est le joueur de lyre, hein, par définition. C'est bien ça, si je ne me trompe pas, qui est le mythe de la poésie lyrique, justement. Et vous êtes emparé de cette figure d'Orphée. C'est une pièce qui s'intitule Orphée, robot de combat, où cette question de qu'est-ce que le lyrisme dans une époque comme la nôtre, celle des intelligences artificielles, des robots, des machines, c'est cette question-là que vous abordez dans cette pièce. C'est une question.
Oui, tout à fait. Orphée Robot de Combat, c'est un projet maintenant qui commence un petit peu à dater. Mais c'est vrai que c'était littéralement, au départ, pour moi, c'était presque une sorte de surnom. C'est-à-dire, comment endosser à la fois dans une époque où la poésie est devenue encore moins que pas grand-chose. C'est-à-dire que écrire de la poésie aujourd'hui, c'est forcément être lu par quelques dizaines de personnes, peut-être une centaine pour les poètes qui ont une audience un peu plus large, mais la poésie est vraiment réduite à peau de chagrin. Donc comment endosser cette identité-là ou cette pratique-là. Donc il y avait d'une part le terme d'Orphée, qui à la fois renvoie effectivement à toute une image ou une imagerie de la poésie dans la Grèce antique, qui est par ailleurs l'amoureux de Eurydice qu'il va chercher aux enfers. Et ça fait partie aussi de... Moi, j'ai beaucoup de travail, enfin, j'ai fait mon mémoire à l'époque où j'étais étudiant en littérature sur Henri Michaux. Et Henri Michaux, il a un très beau texte qu'il écrit, qui s'appelle « Nous deux encore », qu'il écrit à la mort de sa femme. Enfin, sa femme a été agonisante pendant très longtemps. Bref, il écrit un texte, il y a un autre texte qui s'appelle « Agir, je viens » aussi, où il s'interroge sur est-ce que la poésie peut avoir une action ? Est-ce qu'elle peut être agissante, en fait ? Est-ce que c'est juste des mots ? Ou est-ce que ça peut quand même produire quelque chose ? Ce qui est la question d'Orphée. Est-ce que son chant, la beauté de son chant, peut arracher Eurydice au royaume des morts ? Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans... Il y a eu un très beau recueil qui a été édité, qui s'appelle... Je n'en souviens plus. Qui a été édité par Jacques Roubaud, je crois, qui est un recueil de textes d'Indiens d'Amérique. Et où il commence, en introduction, en expliquant que normalement, il ne devrait pas en fait, faire ce recueil, parce que c'est poèmes n'en sont pas, ce ne sont pas des poèmes, ce sont des principes d'action pour les personnes qui les ont écrits et proférés. Ça sert à quelque chose. Ce n'est pas juste de la poésie, en fait, comme on l'envisage. Donc cette question de l'action de la poésie, elle traverse l'histoire de la poésie et à un niveau transculturel. Donc la figure d'Orphée, elle est éminemment rattachée à ça, en fait. Et pour moi, la question, elle est aussi, est-ce qu'un poème peut avoir une action, en fait, à un niveau... on a écrit un poème avec un ami, Florent Lâche, où je reprends un vieux rêve que j'avais fait au moment où j'ai publié Une fable humaine. Et dans ce rêve un peu débile, daté de 2005-2006, je suis au sommet de la Tour Eiffel et je lis des extraits de mon livre à Jean-Marie Le Pen, dans ce rêve, et ma poésie combat en quelque sorte, et évidemment à la fin du rêve ça échoue complètement, mon poème n'arrive pas à empêcher les idées de Le Pen de triompher, mais voilà, je pense que mon inconscient est travaillé par cette question de est-ce qu'un poème peut encore avoir une action quelle qu'elle soit. Et donc Orphée robot de combat, à la fois il y a cette question de la poésie comme action, il y a la question de la poésie comme presque comme une fréquence radio, qui serait une fréquence cachée en quelque sorte. C'est-à-dire que si on zappe, moi j'aime beaucoup prendre une petite radio FM et passer très très vite d'une fréquence à une autre. Et pour moi, la poésie, c'est presque la fréquence qui est en dessous, qu'on n'entend pas, en dessous de toutes les talk shows, les gens qui parlent, les musiques très fortes. Donc le point de départ de Orphée Robot de combat, c'est un espèce de montage complètement délirant que j'ai fait, où on entend tout un tas de bruits de radio, de gens qui parlent, et la poésie serait quelque chose qui essaie de se faire entendre en dessous de tout ça, ou en dessous, à travers, entre... J'utilise les mots de tous ces fragments de discours pour essayer de recomposer le poème qui serait celui de Orphée Robot de combat. Et Orphée Robot de combat, c'est par ailleurs pour moi aussi une subjectivité éclatée. Ce mélange entre le poète et le principe du robot de combat, qui est une non-subjectivité puisque c'est un organisme automatique, correspondait en quelque sorte à ce que je me sentais être. Au sens où j'étais à la fois, pour gagner ma vie, j'écrivais des programmes pour les théâtres, je donnais des bouts de cours par-ci par-là. Et c'est le cas de beaucoup d'artistes, de philosophes autour de moi, de ma génération, qui, pour joindre les deux bouts, ont développé une capacité à pouvoir faire plein de choses différentes. Et en quelque sorte, Orphée est une espèce d'identité multiple qui est à la fois, voilà, il est à la fois musicien, puisqu'en l'occurrence, le Orphée de la mythologie grecque joue de la lyre. Donc dans la lecture d'Orphée Robot de combat, j'utilisais une espèce de petite lyre avec laquelle je faisais ma lecture, et puis aussi tout un tas de bruits. Mais pour moi, ça correspondait, à l'époque où je l'ai écrit, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, à une figure de l'artiste comme obligé de faire plein de choses en même temps pour pouvoir se débrouiller. Et ça correspond aussi à un paradigme de la précarité des artistes et des intellectuels qui, pour la plupart, pour réussir à avoir un semblant de salaire, soit deviennent enseignants, soit jonglent entre eux des petits bouts de droits d'auteur par-ci par-là, une traduction, un petit texte critique. Voilà,
Donc les formes aussi de la poésie sont évidemment dépendantes des conditions matérielles, de la vie courante, évidemment. C'est aussi... ça fait partie de votre réflexion dans des poèmes tels que Poésie classe moyenne, ou du moins ça en est affilié, ce genre de questionnement sur les propres conditions de production de la poésie contemporaine.
Oui, tout à fait. Alors, ça vaudrait presque le coup, si je l'ai sur mon ordinateur, que j'en lise un extrait de Poésie classe moyenne, parce que c'est vraiment un poème que j'ai essayé d'écrire comme un autoportrait. Alors, encore une fois, c'était au départ à l'invitation, entre guillemets, de Diane Scott, qui dirige la revue Incise. En fait, au sein de la revue Incise, elle avait posé une question un peu aux gens qui l'entouraient sur quelles sont vos dates politiques ? Est-ce qu'il y a dans votre histoire personnelle des dates qui viennent formuler quelque chose de votre rapport aux politiques ? Et moi, j'avais commencé à écrire quelques fragments de quelque chose qui pouvait ressembler à cette poésie classe moyenne. Et du coup, cette invitation à réfléchir sur les dates politiques a complètement accéléré le processus d'écriture. Et c'est devenu une sorte d'autoportrait, mais à un niveau très basique, vraiment comme une espèce d'autoportrait photographique, une sorte de polaroïde, mais un polaroïde... comme si j'avais pris plein de polaroïdes depuis mes 17 ans jusqu'à aujourd'hui, sur toutes ces imbrications du rapport au politique, où j'interroge justement le fait que, d'une part, être poète aujourd'hui, bah, c'est être poète non pas en ayant été baigné dans Victor Hugo, Lamartine ou Baudelaire depuis sa plus tendre enfance, mais c'est aussi, c'est ça, et aussi avoir été enfant dans les années 80, avoir joué à la Game Boy, avoir écouté Jean-Michel Jarre, avoir grandi en pavillon de banlieue, voilà. Qu'est-ce que une poésie qui se fait sur ce terreau-là ? Bon, je suis pas du tout le seul à réfléchir à ces questions-là. Il y a plein d'écrivains très intéressants qui ont interrogé cette condition de la classe moyenne. Il y a d'ailleurs un texte aussi de Nathalie Quintaine qui s'appelle « Que faire des classes moyennes ?» Aurélien Bélanger aussi, plutôt au niveau romancier, s'est beaucoup interrogé là-dessus. Il y a un autre livre qui s'appelle La condition pavillonnaire. Bref, je pourrais continuer longtemps, mais là, c'était plutôt un endroit vraiment d'autoportrait de qu'est-ce que c'est que cette subjectivité de la classe moyenne, et comment est-ce qu'elle vient se greffer avec la question de la poésie, et comment est-ce qu'elle vient se greffer avec la question de la politique aussi. Et quel est le lien qu'on peut faire justement entre la guerre du Golfe en 92 et l'apparition du Walkman et 1989, le bicentenaire de la Révolution française, et comment est-ce que tout ça vient se mélanger au sein d'un sujet qui se trouve être moi. Donc voilà, Poésie classe moyenne, c'est une sorte de réflexion sur ces fragments d'identité qui recomposent un sujet individuel et politique.
Est-ce qu'on pourrait en avoir un extrait ? Alors, Poésie classe moyenne, prise 1, clap.
Tu savais dès le début que le poème classe moyenne allait te poser un certain nombre de problèmes, que certains allaient s'avérer insolubles, d'autres bloquaient toute la mécanique. Qu'il y aurait des sautes d'attention, des moments d'hébétude, des blancs subjectifs intenses. Tu savais qu'il y aurait des contradictions, qu'elles seraient nombreuses et qu'elles te viseraient directement. Toi, sujet politique moyen, sans prédisposition particulière à la violence. Tu savais qu'il faudrait opérer en ton nom propre, sans couverture, sans identité d'emprunt, sans protection métaphorique particulière, en temps réel subjectif, avec pour seul indice quelques souvenirs en vrac, peut-être une ou deux photos. Tu savais dès le début qu'il faudrait écrire le poème classe moyenne. Il était là. Dès les premiers motifs lyriques, en embuscade, dans tes lectures de Prévert et de Lamartine, tes études littéraires, dans la caution parentale de ton père professeur d'université. Il était déjà là, recouvert par une masse d'existence confuse, poème classe moyenne, dissocié, suspendu aux conditions matérielles tacites de l'ensemble classe moyenne et de l'ensemble poésie. Tu savais qu'à l'écriture du poème classe moyenne correspondrait une altération, partielle d'abord puis définitive, de la fonction poétique du langage. L'arasement du sujet lyrique au profit d'un sujet politique neutre encore à définir. Échelonnement de la dette lyrique.
Le projet d'assécher le côté lyrique, le lyrisme, c'est un peu mettre le pied sur le frein pour pas se laisser emporter par l'expressivité, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui. Parce que je sais que je peux aussi avoir une tendance qui me pousse dans cette direction-là. Mmh. Sur laquelle j'ai plutôt effectivement envie d'appuyer sur la pédale de frein dans ces cas-là. Enfin, ça m'arrive de réécouter des projets plus anciens que j'ai pu faire où je laisse complètement libre cours à cette fibre-là et je trouve que c'est de la guimauve absolument indigeste. Mais oui, tu as tout à fait raison de dire qu'il en reste toujours des traces.
Et j'ai l'impression, malgré tout, qu'il y a aussi que souvent ça part d'une blague et aussi de remettre en question aussi le lyrisme, c'est aussi la gravité des émotions et il y a aussi l'idée de partir aussi de quelque chose qui. D'une idée qui est douée d'humour, on va dire.
Oui, ça c'est vrai. C'est le cas en particulier d'un ensemble de poèmes. Qui est d'ailleurs aujourd'hui, enfin qui est un ensemble parfaitement sérieux, mais qui part vraiment littéralement, là pour le coup, d'une blague, puisque j'étais avec mon ami Florent Lahache, qui est philosophe et qui est quelqu'un avec qui je dialogue beaucoup, à la fois sur des questions liées à la poésie, mais aussi à la philosophie. Et dans mon souvenir, en fait, on était à une conférence de philo, qui l'intervenant ou l'intervenante ne devait pas être très très intéressant, donc on était un peu comme des écoliers à discuter pendant que... Et je ne sais pas pour quelle raison on s'est mis à délirer sur l'idée d'écrire les poèmes de célébrités. Et parmi les célébrités en question, on s'est dit, bah, tiens, on pourrait écrire les poèmes de Maradona, on pourrait écrire les poèmes de Michael Jackson, on pourrait écrire les poèmes de Tina Turner, les poèmes de George Bush, j'en sais rien. On a déconné là-dessus pendant un petit moment. Et puis en fait, comme souvent dans ces discussions un peu délirantes avec Florent, ça peut déboucher de mon côté sur des projets sérieux. Mmh. Et j'ai essayé en fait. J'ai essayé Maradona, bon, ça marchait pas très bien. J'ai essayé Michael Jackson, ça marchait pas très bien non plus. Il y avait un côté blague qui était trop fort pour que la consistance poétique puisse opérer. Et puis bizarrement, en fait, j'ai essayé sur Clint Eastwood. Et en fait, Clint Eastwood, comme c'est vraiment une figure, entre guillemets, c'est une figure de vide. C'est-à-dire que le visage de Clint Eastwood est à la fois une figure qui exprime quelque chose de l'ordre du mépris, de la violence, de la haine, mais qui est presque plus un masque. Un visage. Et du coup, ce masque permettait d'y glisser une sorte de subjectivité placée en contrebande, en fait, derrière ce masque. Et ça opérait. Donc j'ai commencé à écrire les poèmes de Clint Eastwood que j'évoquais tout à l'heure, comme une sorte de lyrisme au second degré, la possibilité d'écrire les poèmes lyriques de quelqu'un d'autre, qui ne soit pas moi. Et en ayant une... j'ai parcouru un peu le... on va dire la filmographie imaginaire de Clint Eastwood, parce que je n'ai pas une connaissance exhaustive de son... mais plutôt avec des espèces d'images référentes, comme ça, issues de Impitoyable, enfin de pas mal de ces figures de western, où il y a une espèce de violence froide, et en essayant aussi de voir comment glisser une parole dans cette bouche-là, en utilisant le filtre de l'Amérique, qui est, parce que par ailleurs je suis très influencé notamment par la fiction américaine, donc l'Amérique a, comme pour beaucoup d'écrivains français, une espèce de valeur un peu fantasmatique, mais comment utiliser cette figure pour faire dégonfler aussi ce fantasme d'Amérique. Donc voilà, le poème de Clint Eastwood par exemple, c'est typiquement un projet qui part d'une blague purement et simplement, mais qui devient quelque chose de tout à fait sérieux à l'arrivée.
Et la conférence là que vous allez donner, où vous êtes voilà, où c'est la rencontre d'une conférence très sérieuse et de James Brown, voilà, il y a aussi une sorte de rencontre un peu étonnante, pour le moins.
Bah, d'ailleurs, c'est peut-être une bonne manière de boucler sur ces histoires de lyrisme. Il y a un morceau de James Brown qui s'appelle Give It Up or Turn It Loose, sur l'album Jungle Groove, je crois. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse chez James Brown, c'est vraiment comment est-ce qu'il a transformé quelque chose qui était la chanson, basée, parce qu'en fait, les tout premiers albums de James Brown, c'est encore de la chanson un peu rhythm and blues. Et petit à petit, il se débarrasse de la mélodie, il se débarrasse du texte, et pour se concentrer sur comment est-ce qu'on produit du rythme, comment on invente. Donc il va transformer, par exemple, l'ascension à quatre temps, qui était plutôt un rythme basé sur les temps forts du deuxième temps et le quatrième temps, il va le placer sur le premier temps. Mm-hmm. Et se placer le rythme sur le premier temps, sur le one, and one, two, three, four, and one. Il y a une attaque qui permet en fait à tous les autres instruments ensuite de déployer en intercalaire tout un tas d'autres rythmes qui vont être portés par la basse, par la batterie, par la section des cuivres et la voix qui vient, quand on écoute vraiment certains morceaux de James Brown, la voix n'a absolument pas comme valeur de véhiculer de la mélodie ou du sens, mais juste de produire de l'intensité, de l'intensification rythmique. C'est-à-dire qu'il va juste placer, un peu comme un pasteur en train de faire son prêche, il va placer des sortes de cris. Il vient vraiment fill the gap, il vient remplir les espaces laissés vacants par les autres instruments. Et c'est une musique, pour moi, qui est presque une musique abstraite, en fait, le funk de James Brown. Parce que, justement, on n'est plus du tout dans un univers qui est celui du lyrisme. Qui est l'univers de la chanson, en fait, principalement, où on va faire des bluettes sentimentales, mais il va déplacer vraiment la question sur une sorte de production un peu folle de rythme, qui va d'ailleurs avoir une influence prédominante, puisque les rythmes inventés par ces musiciens, en fait, le batteur notamment et le bassiste, vont être utilisés ensuite, les débuts du hip-hop, c'est des samples de la batterie de James Brown. C'est des shuffles de batterie absolument géniaux qui vont vraiment servir pour créer le hip-hop par la suite. Donc voilà, là, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, de produire une analyse critique de la musique. C'est très difficile. Donc là, en un sens, je l'incorpore à l'intérieur de cette conférence. Ce n'est pas du tout une conférence sur le funk, mais... le funk est plutôt vu comme une musique un peu festive, joyeuse et légère. Pour moi, elle a beaucoup plus... Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond dans ses créations rythmiques que juste une musique faite pour danser, quoi. Donc il y a aussi ça dans Le corps ne bouge pas, c'est... voilà, sans non plus reverser dans le lyrisme dans l'autre sens, le rythme est un peu à l'origine de toute chose.
On peut peut-être terminer. Le rythme est à l'origine de toute chose. C'est une bonne conclusion. Merci Gilles Amalvi pour cet entretien sur les ondes d'univers. Merci.
Merci pour votre invitation.